Nous allons faire quelques lectures pour préparer le temps de prédication que Paul Robert apportera tout à l'heure. Tout d'abord, dans l'épître aux Philippiens, on sait qu'en fait, Paul a écrit cet épître aux Philippiens alors qu'il était en prison. Et cet épître, par cet épître, il essaye d'encourager, malgré que lui avait une situation très difficile, il essaie d'encourager les Philippiens pour le combat, les encourager à l'humilité, à l'unité, ceci pour accepter le Christ. Alors au chapitre 2, à partir du verset 5, il dira « Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix.
Moi, je vais vous lire dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Exode chapitre 3, verset 13 et 14. Moïse dit à Dieu : J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Pour finir, Apocalypse, chapitre 22, verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. »
Nous allons prier pour Paul Robert qui apporte maintenant la prédication. Dieu notre Père, nous savons que c'est par ton esprit que ta parole peut nous atteindre. Nous te prions pour que Paul Robert ait les paroles justes et permette par son message de nous rejoindre. Seigneur, c'est notre attente que ta parole nous rejoigne en Jésus-Christ. Amen.
C'est beau.
Ouais.
C'est la galaxie d'Andromède. Cette île se situe à 2,55 millions d'années-lumière de notre bonne vieille Terre. Il y a une certaine distance, hein, ça fait des milliards et milliards de kilomètres à l'année-lumière, à la vitesse de la seconde, 300 000 kilomètres à la seconde. Ici, c'est la Lune. Photographiée en Croatie, au bord de la mer. On la connaît tous, on l'a tous vue. Sa lumière et la Lune, à la vitesse de la lumière, est à une seconde environ de notre Terre. Voilà, la Lune et la galaxie d'Andromède. Je les regarde. Imaginez-vous que vous soyez devant votre télescope, vous voyez Andromède, et avec l'autre œil, vous voyez la Lune. Imaginez aussi qu'il y a quelqu'un sur Andromède qui envoie la lumière. Puis une autre personne sur la Lune qui envoie la lumière. Moi, je suis là, dans mon présent, et je regarde Andromède et la Lune. Mais pour la personne qui a envoyé depuis Andromède, il y a déjà 2,55 millions d'années-lumière. C'est du passé. Mais pour moi, c'est du présent. Pour la Lune, un peu moins, c'est une seconde. Mais c'est déjà du passé. C'est déjà du passé. Mais pour moi, comme je dis, comme je regarde maintenant, c'est du présent. Alors, dans l'espace-temps, où est le présent? Celui de là-haut ou celui d'ici? Et qu'est-ce que le présent? Tout le monde m'entend, hein? Qu'est-ce que le présent? Maintenant, une BD. Le chat de Dieu. Voilà, j'aime beaucoup ce chat. Au fond, si on réfléchit, un millier de millions de milliards d'années, un millier, c'est trois. Alors, on peut mettre là-dessus. C'est trois fois. Rien du tout par rapport à l'éternité. C'est pour ça que j'aime le chat, parce que de temps en temps, sur le plan de l'humour, ça vous touche. Pas vrai? Qu'est-ce que la réalité du temps? Pour nous qui avons un commencement et une fin, quel est notre rapport au temps qui passe? Au temps éternel, à l'éternité. Et Dieu? Et Dieu dans ce questionnement? Où est-il? Que fait-il? Qu'est-il pour nous? Il y a quelque temps, je suis passé à la librairie L'Eau Vive. Et puis, attendant, j'ai commencé à fouiller dans les bouquins, notamment, vous savez, les bouquins d'occasion, ceux qui sont invendus, etc. Ceux qui traînent. Et dans ces bouquins, j'ai découvert un trésor. Un trésor, en tout cas pour moi. Il s'intitule « L'homme » du genre humain, bien sûr. Et le mystère du temps. C'est écrit par le père Henri Boulade, qui vient d'Alexandrie. On en a parlé un peu avec les derniers événements. Il a intervenu plusieurs fois à la radio, etc. Un trésor pour 5 balles. Non, ça vaut vraiment la peine de passer à la librairie L'Eau Vive. Hein. Allez-y. Pas d'attendre la librairie ici. D'ailleurs, là-bas, on trouve des trésors à la librairie L'Eau Vive. Pas toujours pour 5 balles. J'ai lu, j'ai dévoré ce livre. Il m'a questionné. Il a provoqué en moi la réflexion, répondu en partie à mes questions. Il m'a ouvert un regard nouveau sur ce mystère du temps, sur ma vie et sur ma finitude, et surtout sur mon espérance. Et c'est un peu sur ce livre et ses thèses que j'ai préparé, aussi avec l'aide de l'Esprit, je crois, ma prédication pour ce matin. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le temps? La vie qui passe. Un matin, un soir. Ou un soir, un matin. Une course. Un vieillissement incontournable. Qu'est-ce que le temps? Question difficile. Le temps. Ils font toujours tic-tac maintenant, mais enfin, tic-tac, tic-tac. Avec nos pendules, nos montres, nos chronomètres, on croit pouvoir le mesurer, l'enfermer, le contrôler, voire le dresser. Mais c'est impossible, même si on est très, très précis, impossible de connaître le temps. Je me souviens d'un prédicateur d'Afrique, il m'a d'ailleurs énervé un peu en son temps, qui disait, vous les Suisses, vous mesurez le temps, vous le chronométrez, etc., etc., mais vous n'avez pas le temps. Et puis, pour nous, Africains, le temps, on l'a, le temps, on le prend. Bon, je ne sais pas si c'est juste, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Et puis, dans nos expressions, avoir le temps, prendre son temps, perdre son temps, tuer le temps, c'est de l'argent, on est pressé par le temps, etc. L'homme est le mystère du temps. Le comprendre, le connaître, mais comment? Si on demande à un poisson, qu'est-ce que de l'eau? Vous direz, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu. Car il est totalement immergé dans l'eau. il y baigne. Pour savoir ce que c'est que de l'eau, il faut être hors de l'eau. Pour savoir ce qu'est le temps, il faut être hors du temps. Il faut un certain recul, une distance pour comprendre et connaître. Si je me colle à un tableau, je ne peux pas le voir. En mettant une distance avec le tableau, je peux l'admirer, voir le sujet, discerner le coup de pinceau du maître. Lorsqu'il y a un problème entre nous avec quelqu'un, une incompréhension, un rapport difficile, ou bien une importante décision à prendre, on va laisser passer une nuit. Ne dit-on pas la nuit porte-conseil ? On va prendre du recul, mettre une distance avec le problème. Parce que cela est nécessaire pour comprendre, essayer de le solutionner, apporter son avis, donner un conseil. Alors pouvons-nous parler du temps ? Alors que nous y sommes immergés dans le temps, comme le poisson dans l'eau. Pouvons-nous en parler ? En êtes-vous sûr ? L'animal, la plante, le minéral sont en totale coïncidence avec le temps. Mais l'homme, est pour une part importante de lui-même au-dessus du temps. Sinon, comment pourrait-il en parler comme j'essaie de le faire ce matin ? Il y a un philosophe qui s'appelle Henri Simon qui dit « L'homme est un animal qui se souvient et qui prévoit. Parce qu'il se souvient, il est naturel qu'il songe et qu'il regrette. Parce qu'il prévoit, il est nécessaire qu'il craigne et qu'il espère. » On se souvient, on a une mémoire, on pense au passé. Et le passé alors, redevient présent en nous, à notre conscience. C'est cette présence du passé qui fait qu'en réfléchissant, en extrapolant, on attend le futur et que l'on possède une notion du temps. Nous réfléchissons, on voit, on se pense. Et cette réflexion suggère en nous, là dans le fond de moi, un miroir dans lequel on se regarde. Je regarde mon passé, par exemple. Si je suis collé au miroir comme au tableau, il n'y a pas de réflexion possible. Il y a réflexion parce qu'il y a une distance. Cette distance permet une conscience de moi, entre moi et moi. L'animal, il naît et il meurt. Mais l'homme seul sait qu'il est né, bien qu'on ne se souvienne pas toujours exactement de ce moment précis. Mais on sait qu'on est né. Il sait aussi qu'il va mourir, qu'il va finir ses jours sur la terre. Cette mort, cette finitude est un des grands points d'interrogation, un grand point, une source d'angoisse. Mais le fait que je sois conscient de ma mort, je suis conscient de ma mort, c'est le signe de ma transcendance par rapport à cet événement. Je veux dire par là que je suis au-delà, au-dessus, supérieur à cet événement de ma mort. Événement d'ailleurs qui ne touche qu'une partie de moi-même. La part extérieure, la chair et le sang et les cheveux. L'essentiel de ce que je suis, de ce que vous êtes, échappe au temps qui passe. Mon être intérieur demeure. Ces quelques réflexions, j'espère que vous m'avez suivi, parce que moi j'ai dû le lire 2-3 fois hein, pour comprendre, parce que je ne suis pas du tout philosophe, etc. Ces quelques réflexions pour souligner que l'homme, et je le crois, est au-dessus du temps. Nous le voyons défiler, comme sur un quai de gare, je vois passer le train.
je vois défiler le temps. Il est au-delà du temps. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, qui nous a été lu, il nous est dit que même Dieu habite dans nos cœurs la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Dans la Genèse, au chapitre 1, lors de la création, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image. C'est répété deux fois. À son image, il le créa. C'est important. C'est dit deux fois. Cette image serait-ce le fait que nous sentions le temps, que nous sommes conscients de nous-mêmes, conscients de l'éternité et du Dieu éternel. Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Paul aux Corinthiens leur dit ceci, que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous ne voyez pas que je suis tout jeune? Tout cela signifie que l'homme, et nous en sommes conscients, ne meurt pas complètement. Que quelque chose en lui échappe au temps qui passe. Que l'essentiel de lui-même, une part de lui-même, mon moi, mon je, votre moi, votre je, vous, vous échappez au flux du temps qui passe. Je ne meurs pas complètement. Mais bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne ou mauvaise nouvelle? Espérance, joie ou inquiétude? Tiens, on pourrait mettre les smiles avec le sourire. Bien. Quand je dis je meurs pas complètement, espérance, joie, ouais, super, ou inquiétude et peur. Le cours du temps, le flux du temps. Pour l'instant, j'y suis, comme vous. Je songe à mon PC, je pense à mon avenir. Quelqu'un a dit, je m'appuie sur mon passé pour me projeter dans l'avenir. Mon passé. Aïe, aïe, aïe. Ou bien super. Mon passé est plutôt noir ou plutôt rose. Et en pensant à tout ça, mon avenir, je le vois. Aïe, aïe, aïe. Dur, difficile. Ou bien super. Tout rose. Le chat, le même qu'on a vu tout à l'heure, il a dit, le passé, en fait, c'est de la vie morte. Et c'est pas très drôle, hein, mais c'est ça. La fête, la vie, ne serait-elle que du passé et de l'avenir? Oh, j'ai préparé un petit tableau que je vais mettre là-haut. Hop. J'ai duré ça l'autre jour. Que j'ai une certaine grandeur. Voilà, ça va comme ça. La vie, qu'une ligne, est du passé et de l'avenir. Le passé avance, l'avenir recule, l'un occupant la place de l'autre. Sur cette ligne, le présent existe-t-il? Ne serait-ce qu'un point de contact entre passé et avenir. Un point de contact entre le passé et l'avenir. Est-ce que le présent ne serait que ça? Le présent. Mais qu'est-ce qu'un point? Ça n'existe pas, un point. En mathématiques, en géométrie, un point n'a aucun volume, aucune surface, rien. Mais rien de rien, trois fois rien. Enfin, trois fois rien, rien de neuf, trois fois neuf, 27, enfin bon, on pourrait... trois fois rien. Si donc le présent n'est qu'un point, là où le passé rencontre l'avenir, il n'a aucune existence. Une petite phrase que j'ai prise dans le bouquin, qu'est-ce que le présent ? Sinon un avenir qui n'est pas encore et qui est en train de devenir un passé qui ne sera plus. Je répète, qu'est-ce que le présent, sinon un avenir qui n'est pas encore et qui est en train de devenir un passé qui ne sera plus? La phrase que je viens de vous dire deux fois, c'est déjà du passé. Le présent n'existe pas. Le présent n'a pas de consistance. Pourtant, un point. Le point. C'est là que je pique le compas pour faire un cercle. Une des plus belles figures de géométrie, la figure parfaite, le cercle. Il faut au minimum 3 points pour faire une surface. Un triangle. Au minimum 3 points pour faire une surface. Et puis le point, c'est aussi un axe sur lequel ça tourne. La Terre tourne sur son axe. Et beaucoup de choses tournent, heureusement. Le point, on dit faire le point. On part d'un point de repère. Ça indique des fois une direction, je fais le point. Avec la boussole, on fait le point. Peut-on affirmer que le présent n'existe pas? Non, mes amis, non. Je désire ce matin vous dire que seul le présent existe. Il n'y a que le présent. Le présent est la seule réalité. Passé et avenir se résolvent en lui. Le présent concentre en lui le temps. Le présent se situe en quelque sorte au-dessus et au-delà du temps. Il s'apparente à l'éternel, à quelque chose d'éternel. Quand on dit, nous chrétiens, l'éternel, nous pensons à celui qui demeure à jamais, celui qui nous a créés, qui nous a placés sur la terre, qui nous a donné le temps, l'espace-temps, qui a créé le temps pour nous, mais en mettant à nous, dans sa bonté, la pensée de l'éternité. L'Éternel, ne dit-il pas à Moïse, on l'a lu, « Je suis celui qui suis ». Et quand tu iras vers les peuples, tu diras « Je suis » m'a envoyé vers vous. Et Jésus, lors d'un entretien avec ses disciples à plusieurs reprises, notamment dans Jean 13 au verset 19, parlant de sa mort prochaine et des événements qui vont arriver, il dit « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi, je suis. » Et il répète plusieurs fois dans les évangiles, « Je suis. » Dans l'Apocalypse, si on l'a lu rapidement, tout à la fin de la Bible, Jésus ne nous dit-il pas « Je suis l'alpha et l'oméga. » Je suis le premier. Je suis aussi le dernier. Et je suis le commencement. Et je suis la fin. Quelle affirmation! Pour nous rappeler qu'il englobe tout Jésus-Christ. Il est hors du temps. Il est maître du temps. En lui, en Jésus, le passé et l'avenir sont présents. Il est notre présent. Il est le « je suis ». Jésus prend sur lui notre passé, nos nostalgies, nos remords, nos « aïe, 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 aïe », nos maladies, nos tares, notre histoire, nos souvenirs. Il prend sur lui notre passé et il nous ouvre l'avenir. Il chasse l'angoisse, il chasse la crainte et par là l'inquiétude. Et il donne une espérance. Je suis. Jésus, je suis. Je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis la vie, je suis la source, je suis le pain de vie, je suis l'étoile brillante du matin, celle qu'on attend après la nuit, je suis l'amour, avec un grand A. La Bible nous dit que Jésus, il est, il était, et il vient. Pas il viendra, il vient. Dans les évangiles, dans Marc, on lit « le royaume est proche » ou « le royaume s'approche », cela est au présent. Jésus, le « je suis » est le présent, hier, aujourd'hui et à toujours. Omniscient, qui veut dire présent en tous, omniprésent, présent en tout lieu. C'est vrai, la croix, c'était il y a 2000 ans. Cependant, pour Jésus-Christ, hors du temps, mais surtout pour moi et pour nous, pour vous, c'est aujourd'hui la croix. Le royaume s'approche aujourd'hui. Pour les parents, mes grands-parents, mes aïeux, pour tous ceux qui viendront après moi, c'est toujours l'aujourd'hui de Dieu. Il est toujours le présent, le « je suis » de la vie des hommes. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, on l'a vu. Hein. Comme tu disais, Joël, combien de milliards d'années, 13 milliards d'années. On ne peut que se taire, comme dit Job, hein. On disait ce matin, pour ceux qui disaient que la lit. Quand Dieu commence à se présenter, il dit « je ne peux que me taire, je mets la main devant ma bouche ». Qu'est donc l'homme pour que tu prennes garde à lui? Puis tu te souviennes de moi, une poussière, rien, un claquement de doigts dans l'espace-temps. Et encore, eh bien, Dieu, par Jésus, dans son immense amour, a accepté de venir se coincer dans notre espace-temps. Relisons Philippiens 2. Jésus, qui était vraiment divin, lui, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égal avec Dieu, car il était Dieu. Mais il s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé de lui-même, de ce qu'il était, en se faisant vraiment esclave. En devenant semblable aux humains, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Oui, il est venu se coincer. Pour aujourd'hui, c'est ce que je vois. Il a tout quitté, il a quitté cette éternité, cet éternel, pour se coincer dans notre état d'homme et de femme, pris par le temps. Il est devenu, sur la terre, il y a 2000 ans, vraiment semblable à nous tous, avec ses tristesses, quand il parlait de son peuple, quand il pleurait sur Jérusalem, avec ses angoisses face à sa mort prochaine, sa finitude sur terre. Et Jésus, il est venu pour vaincre cela, vaincre le temps, vaincre cette entrave pour nous, le temps, et nous donner l'espérance en la vie éternelle. Aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, dans le présent de Jésus-Christ, ta vie recommence. Aujourd'hui, tu peux naître de nouveau. Aujourd'hui, tu peux repartir à zéro. Les gens, vous connaissez, tu peux repartir à zéro. Y crois-tu? Oui, pour ma part, j'y crois. Oui. Ton passé n'existe plus. On l'oublie. Il l'oublie. Ne met-il pas nos fautes au fond de la mer? C'est maintenant que ma vie, que ta vie commence. Maintenant que tu es 20, 40, 60, 80 ans ou plus ou moins, c'est maintenant l'aujourd'hui de Dieu pour toi. Y crois-tu? Y crois-tu? Oui, j'y crois. Alors c'est la renaissance. C'est la résurrection. C'est ce qu'on appelle une conversion. Un volte-face à 180 degrés, la moitié d'un cercle. On ne regarde plus en arrière, mais avec un regard tout neuf vers l'avant. Je deviens, en Jésus, un être nouveau. La psychanalyse, pour essayer de comprendre et d'aider les êtres humains, parfois et même souvent enferme l'homme dans son pensée. son enfance, ses instincts, son hérédité, son éducation, etc., etc. Et parfois, ce passé devient d'un tel poids que l'homme, il en est l'esclave, il en est le prisonnier. Il ne peut plus sortir de ce passé. J'avais 20 ans. C'était il y a longtemps. Mais quand j'y pense, c'est aujourd'hui, c'est présent dans ma tête. Je pense que j'avais bien compris. Hein. J'avais 20 ans et je faisais partie d'un groupe de jeunes depuis très longtemps et on m'y connaissait avec tout ce que j'étais. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire. C'est qu'un jour, pour de multiples raisons, je suis parti faire un camp de ski avec un autre groupe de jeunes. Personne là-bas ne me connaissait. Plus de passé, pas d'étiquette sur mon front, chanson. J'étais comme neuf, tout neuf. J'étais enfin moi. Quelle joie de se sentir accepté. Et d'ailleurs, dans ce camp, des amitiés se sont nouées qui durent encore aujourd'hui. Le passé, on peut en être esclave, ou les autres nous en rendent esclaves. Et c'est là qu'intervient la foi en Jésus-Christ, plus forte que notre passé, qui dit à l'homme, tu n'es prisonnier ni de ton passé, ni de ton éducation, ni de ton hérédité, ni de tout ce que tu as vécu jusqu'ici. C'est ça la foi. Pas une résurrection, peut-être qu'un jour, à la fin des temps. Mais une résurrection aujourd'hui, ici et maintenant. Ta vie commence, direction vie éternelle. C'est cela la bonne nouvelle, la joyeuse, la grande nouvelle de l'Évangile. Les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Nouvelle naissance, renaissance. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lazare, sors du tombeau. Telle est la parole libératrice du Christ aujourd'hui par rapport à tout ça. La grâce nous est offerte, ici et maintenant, pour recommencer tout neuf, à neuf, dans notre vie. Hébreux chapitre 3, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Entends-tu sa voix ? Il t'appelle. Lui, le je suis, le présent, le royaume s'approche de toi. Il t'appelle. Réponds oui. C'est la seule condition pour repartir. Commencer à zéro. Être tout neuf. Trouver, par rapport à tout cela, la paix intérieure. Amen. Puis pour nous les plus vieux, chrétiens neufs depuis longtemps, mais si on regarde de près, il y a pas mal de rayures et de petites bosses. Hein. Afin de reprendre notre envol comme l'aigle, c'est aujourd'hui aussi le temps de Jésus-Christ pour nous. Afin d'être ragaillardis dans notre foi, on s'essouffle parfois. Je vous laisse le texte de Paul à 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, qui dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lorsque l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Amen.